Bonjour à toutes et bonjour à tous. À la question « Êtes-vous inquiet ?», qui peut répondre « Non ». Alors pourquoi vouloir être en paix ? Pourquoi vouloir lutter contre cette inquiétude qui est peut-être le signe d'une grande lucidité ? Et si au lieu de chercher des remèdes à la vie inquiète, on donnait la parole aux inquiets qui en ont fait leur miel, qui arrivent à l'écrire et qui arrivent, pourquoi pas, à en rire ? Rassurez-vous, il y a de quoi rester inquiet. Allez, on commence avec un peu d'amour, version Philip Roth.
Speaking of love, why don't I just repeat what Charlie Chaplin said about love? He said, it's love, 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 love. It's love, 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 love. It's love, 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 love. It's love, 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 love. You didn't figure on getting that, did you?
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were.
Bonjour Paul Lévy.
Bonjour.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie.
Merci à vous de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être ici.
C'est un grand plaisir. Vous êtes venu nous parler de Philip Roth, dont on a entendu la voix. Quand il est interrogé sur l'amour, il répond en chantant du Charlie Chaplin. À vrai dire, puisqu'on parle de l'inquiétude cette semaine, l'amour n'est pas chez lui la source première d'inquiétude. C'est plus d'ailleurs la sexualité, la forme du corps. On y reviendra, comme le chantait Chiran.
Oui. Alors déjà, moi, je voudrais dire à quel point j'ai été charmée, réjouie d'entendre la voix de Philip Roth et d'entendre surtout la façon dont il répond à la question « qu'est-ce que l'amour ?» par un immense éclat de rire. Cette façon qu'il a de balayer d'un revers de la main toute tentative de parler sérieusement.
C'est une façon de ne pas répondre, c'est vrai.
C'est une façon de ne pas répondre tout en répondant, parce que l'humour, cela peut être très sérieux aussi. Alors, oui, l'œuvre de Philip Roth parle beaucoup de sexualité, vous l'avez dit, d'une façon parfois très crue, très directe, mais toujours cocasse. Et c'est une cocasserie, j'allais dire une coquetterie, voyez-vous, à laquelle le public n'a pas toujours été sensible, et une cocasserie et une crudité de langage qui a bien souvent scandalisé.
Vous pensez à la publication du roman qu'il a rendu célèbre, La plainte de Portnoy, 1969 ?
Bien sûr, La plainte de Portnoy, c'est un roman qui raconte, où on voit un jeune avocat juif, très intégré, mais très prisonnier encore d'une éducation étriquée, qui raconte sa vie sur un divan et qui essaye, avec l'aide de son psychanalyste, croit-il, de se libérer de ses démons. Et donc, c'est les élucubrations d'une conscience toujours ramenée à ses obsessions. Et on voit Portnoy vraiment un peu comme un ventriloque, dialoguer avec ses parents, dialoguer avec ceux qui l'entourent et surtout avec lui-même, dans un torrent d'imprécations émaillées de mots yiddish. Et la langue est un des aspects les plus drôles du roman.
On va entendre un extrait de ce texte dans un instant, mais d'abord, Paul Lévy, diriez-vous que l'inquiétude sous toutes ses formes, l'inquiétude liée à la mort, l'inquiétude liée au corps, l'inquiétude liée à une certaine conception de la religion en général et du judaïsme en particulier, est un moteur pour l'écriture de Philip Roth ?
L'inquiétude, elle est omniprésente. Elle est omniprésente et elle est pluriforme et... Oui, c'est un des thèmes les plus importants chez Philip Roth, je crois. Mais elle se double toujours de l'humour, du rire, de la dérision.
Alors, pour brosser le portrait de Philip Roth, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore très bien, ou ceux qui le connaissent et qui veulent déjà en savoir plus, voici comment lui-même raconte comment il est devenu extrêmement connu d'un coup, avec ce livre Portnoy. Alors selon les traductions, il y a aussi Portnoy et son complexe.
Oui.
Et dans l'édition de La Pléiade, à laquelle vous avez collaboré, Paul Lévy, Romans et Nouvelles, hein, qui est paru l'an dernier, la traduction proposée est celle de La Plainte de Portnoy. On reviendra peut-être sur cette question de traduction. Et puis ensuite, un extrait de ce texte, donc lu par la comédienne Nicole Garcia.
Il faut voir qu'en 1969, j'ai été tout d'un coup propulsé, enfin, disons, ma chair humaine s'est trouvée propulsée dans la machine à célébrité pour en faire un hamburger de célébrité. J'ai été quelque peu déstabilisé. Par l'accueil qui a été réservé à ce livre et ma transformation en une personne célèbre. Alors, je n'étais pas célèbre comme Janis Joplin ou comme Jimi Hendrix, mais c'était une toute petite célébrité, une petite chose littéraire de rien du tout. Mais quand même, cette petite chose de rien du tout, en raison de la nature de l'ouvrage quand même, m'a amené à un statut, même pas provisoire, un véritable statut de vedette. C'était le vedettariat. J'étais l'auteur de Portnoy et son complexe, mais je suis devenu Portnoy moi-même. Et c'est ainsi que les gens disaient des choses amusantes à mon sujet lorsqu'ils me croisaient dans la rue. Des choses tout à fait innocentes, bien sûr. Mais enfin, les gens me disaient, m'interpellaient par le nom de Portnoy, et puis bon, moi je répondais de manière amicale, parce qu'après tout, je suis quelqu'un de très gentil. Mais ça ne me plaisait pas.
Voyons, est-ce que j'exagère quand je considère comme un vrai miracle pour moi de tenir sur mes deux jambes? L'hystérie et la superstition, les prends garde et les fais attention, tu ne dois pas faire ceci, tu ne peux pas faire ça, arrête, non, tu en ferais une loi essentielle. Mais quelle loi? Et dictée par qui? Il pourrait aussi bien se mettre des plateaux dans les lèvres, s'accrocher des anneaux dans le nez et se peindre en bleu tellement ils sont bornés. Toutes ces règles et ces obligations mésognées qui s'ajoutent à leurs obsessions personnelles. C'était une plaisanterie familiale, selon laquelle, quand j'étais tout petit, je me suis détourné de la fenêtre par laquelle je contemplais une tourmente de neige pour demander sur un ton d'espoir « Maman, est-ce que nous croyons à l'hiver ?» Et vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai été élevé par des hottentotes et des zoulous. Je ne pouvais même pas envisager de boire un verre de lait avec mon sandwich au salami sans faire une grave offense au Seigneur Tout-Puissant. Imaginez alors ce que pouvait me faire subir ma conscience pour tout se foutre, décharger. La culpabilité, les angoisses, la terreur qu'on m'avait inculquée jusqu'à l'os. Qu'y avait-il dans leur monde qui ne fut chargé de risques, débordant de microbes, truffés de périls? Oh! Où était le dynamisme? Où était la hardiesse et le courage? Qui emplissait les auteurs de mes jours d'une telle crainte devant l'existence?
Et oui, bien sûr, la quiétude que l'on ressent vient toujours de celle des parents. Paul Lévy, c'est bien plus commun d'accuser ses parents
bien
que de s'en prendre à soi-même. Quand le narrateur Alexander Portnoy confie ses inquiétudes à son docteur, le docteur Spielfogel, en fait, il parle surtout et essentiellement, et c'est ce qu'on a reproché à Philippe Roth ensuite, enfin reproché, c'est ce qui l'a rendu célèbre, et pour le pire et pour le meilleur, il en parlait, il parle surtout de sexualité en fait.
Oui, d'ailleurs, je voudrais revenir sur le nom très amusant de ce psychanalyste, Spielfogel. Spiel, un jouet en allemand, et Vogel, c'est l'oiseau. Ce qui renvoie un petit peu à ce qui deviendra une des occupations favorites de Portnoy, c'est-à-dire de jouer avec son petit oiseau. Donc, d'emblée, la note comique est là, hein, puisque le psychanalyste est un personnage bouffon, hein, burlesque. Alors oui, la première source d'inquiétude, c'est celle que lui ont inculqué ses parents. Et le roman consiste en une charge très très rude, hein, contre l'éducation qu'il a reçue. Une éducation dans une famille de la moyenne bourgeoisie, dans la petite ville dans la ville de Newark, New Jersey. Et il s'insurge contre les préjugés, contre l'étroitesse d'esprit de ce milieu, avec la plus grande vigueur, comme vous voyez. Mais surtout, je crois que pour Portnoy, la principale source d'angoisse, c'est qu'il est déchiré entre deux tendances. Ses parents le mettent, font peser sur lui en fait une injonction paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, ils lui disent « Deviens américain, mon fils. Intègre-toi. » Et d'un autre côté, il ne cesse de le lui reprocher en lui disant « Surtout, reste fidèle à tes origines. N'imite pas les non-juifs, les goïs. Ne fais pas comme eux, ne mange pas comme eux. Ne désire pas leurs filles, ne conquiert pas leurs filles. Hein » Et si vous voulez, il lui inculque la vision d'un monde qui se diviserait entre eux, les goïs, les non-juifs, et nous. Et c'est à tel point source d'angoisse pour le petit Portnoy qu'à un moment il dit « Et nous, est-ce qu'on croit à l'hiver ?» Hein, c'est ce qu'on vient d'entendre dans ce passage. Est-ce que nous, les Juifs, nous avons droit à l'hiver, à la neige ou pas ? Donc,
Et c'est ce conflit, du coup, entre là, pour le coup, c'est à la fois les États-Unis, vous avez dit, au sein du pays même, parce qu'il y a une inquiétude liée au pays, on y reviendra, qui vient même plus tard dans l'œuvre de Philip Roth.
Bien sûr.
Mais là, c'est l'idée que le monde serait scindé en deux, entre les Juifs d'un côté dont ils font partie, dont il fait partie, et les goïs de l'autre.
Voilà. Et surtout les femmes goïs qui sont, pour la mère Portnoy, l'incarnation même de ce qu'elle voit tout de même comme un péril, c'est-à-dire l'assimilation et le déni des origines.
Mais pourquoi un tel scandale ? Pourquoi une telle célébrité, un tel scandale à la sortie de ce livre en 69 ?
Je crois que ce que le passage qu'on vient d'entendre montre, c'est la rudesse de la charge. La charge est très, très rude.
À l'égard des parents ?
À l'égard des parents de Portnoy, si on s'en tient à
l'intrigue. C'est le premier roman de la littérature qui adresse une telle charge à l'égard des parents.
À l'égard des parents, non. Mais à l'égard des préjugés, de l'étroitesse d'esprit d'une certaine bourgeoisie juive, petite bourgeoisie juive de l'époque, je crois que c'est la première fois. C'est la première fois que la charge est si rude. J'aimerais dire aussi qu'elle est très très rude contre l'Amérique aussi. Hein? Et en fait, Portnoy renvoie et l'Amérique, et le monde américain, et le monde juif dos à dos. Puisqu'il se moque aussi beaucoup, beaucoup, ça n'apparaît pas dans l'extrait, mais parallèlement à cette critique du monde juif, on a une critique très très féroce de l'arrogance de l'establishment américain, ce qu'on appelle les WASP, White Anglo-Saxon Protestants. Donc ils critiquent leur arrogance, leur intolérance. À l'époque où ils rédigent Portnoy et Goodbye Columbus aussi, l'antisémitisme est encore une réalité bien vivace, bien vivante aux États-Unis. Donc,
Et lui choisit de dénoncer cet antisémitisme sous forme d'humour. Il fait dire à Portnoy, Portnoy dit à son docteur, « Écoutez, docteur Spielfogel, c'est ma vie, ma seule vie, et je la passe au milieu d'une blague juive. » Ou encore, il dira plus tard, alors cette fois-ci dans un autre ouvrage, L'art de la fiction, sur la nature inquiète des juifs, il dit « C'est une forme de sensibilité, la nervosité, la promptitude à s'exciter, le côté ergoteur, la dramatisation, l'indignation, le caractère obsessionnel, la susceptibilité, la mise en scène et surtout la discussion. La discussion et les cris, les juifs n'arrêtent pas. » Vous savez, ce n'est pas ce dont il parle qui fait qu'un livre est juif, c'est que jamais ce livre ne la ferme. Ce livre ne vous laissera pas tranquille, il ne vous lâchera pas.
Je suis très heureuse que vous ayez cité ce passage. Je crois que vraiment, c'est in a nutshell, comme on dit en anglais. Hein, c'est vraiment l'écriture de Roth en quelques lignes,
en quelques
phrases. Oui. Un livre juif, nous dit-il, c'est un livre qui jamais ne se la ferme. Hein. Ça discute, ça ergote. Vous mettez deux personnes face à face, il y aura l'expression de 10 points de vue concurrents. Donc voilà, c'est extrêmement, extrêmement bien choisi. Je vous remercie d'avoir choisi ce passage.
Mais ce qui fait quand même un lien entre, d'un côté, l'existence en général, qui de nature inquiète, le fait que nous allons tous mourir, et ça, il en rit, il sait aussi mettre en scène le tragique de la finitude de la condition humaine ses romans, qui serait à la fois exacerbé par son judaïsme et adouci parce que c'est ce qui lui permet d'en rire aussi. Il en fait une forme de singularité.
Oui, bien sûr. En fait, je...
Comment se distingue-t-il, par exemple, d'autres écrivains juifs contemporains ?
Oui, alors ça, c'est une chose très très importante. Je crois que dans ses livres, Philip Roth s'en prend à son milieu, mais aussi il se démarque d'un point de vue littéraire de ses contemporains. Et surtout d'une certaine littérature juive de l'époque, une littérature bon marché, une littérature très complaisante, dont il fustige la démagogie. Et par exemple, il s'en prend beaucoup à Harry Golden, qui publie des fables nostalgiques sur les charmes de la vie dans les ghettos du Lower East Side, par exemple. Et il s'en prend surtout à Léon Uris, auteur de Exodus, hein, qui galvanise les foules à l'époque et qui exalte le courage des soldats de la Haganah. Bon, pour lui, c'est pure démagogie et c'est vraiment contre cela qu'il s'inscrit. Et lui irait plutôt dans le sens de ce grand écrivain qui est, pour lequel il a beaucoup, beaucoup d'admiration, c'est-à-dire Saul Bellow. Et donc il s'agit d'une part de se démarquer de ce type de littérature populaire et d'autre part aussi de faire, et Bellow avait en quelque sorte lui avait ouvert la voie, il s'agit aussi de se démarquer d'une certaine tendance qui prévalait jusqu'alors dans la littérature juive et qui consistait à vouloir rivaliser avec l'establishment littéraire des gentils. Les gentils avec un G majuscule, bien sûr. À un moment, Saul Bellow dit, lorsque j'ai publié mon premier livre, on attendait l'Antéchrist, voyez-vous. Donc, il s'agit vraiment de se démarquer de cela, de cette envie de faire comme tout le monde et comme les Wasps, d'écrire comme les Wasps.
Et la meilleure façon de se démarquer est sans doute... non seulement d'explorer les aléas du corps, de la sexualité, mais d'aller dans une forme de science-fiction qui consiste dans la droite lignée de Franz Kafka, un écrivain qui a beaucoup influencé Philip Roth, encore que Philip Roth a beaucoup lu, d'imaginer qu'un homme se réveille un matin, non pas comme Gregor Samsa dans la métamorphose de Kafka, en cafard, mais en saint. Un homme qui se rend compte qu'il est en train de se transformer en saint, et tout le récit qui suivra sera le récit de cette métamorphose-là. On va en écouter un extrait, c'est le début où il se rend compte qu'il est en pleine mutation. Il s'agit de Kepesh, qui est professeur de littérature, et voici comment il interprète lui-même cette mutation corporelle, source de bien des inquiétudes.
J'avais été toute ma vie un hypochondriaque si résolu, si vigilant à déceler tout changement dans la température de mon corps ou la régulation du fonctionnement de mon organisme, qu'il était depuis longtemps devenu impossible, à l'homme raisonnable qu'il m'arrivait d'être aussi, de prendre au sérieux les symptômes révélateurs que je découvrais en moi presque chaque semaine et qui étaient invariablement les signes de maladies graves et incurables. En dépit des sinistres prémonitions d'anéantissement, de paralysie ou d'insupportables souffrances qui accompagnaient chaque nouveau malaise ou chaque montée de température, il me fallait après tout admettre que j'avais atteint l'âge de 38 ans sans avoir eu aucune maladie grave. J'étais un homme dont les boyaux fonctionnaient allègrement, un homme pourvu d'une puissance sexuelle sur laquelle il pouvait compter, endurant et de bon appétit, mesurant 6 pieds de haut, en bon état, bien fait de sa personne, qui avait gardé presque tous ses cheveux et toutes ses dents. En conséquence, bien que je fusse tenté avec ce tempérament hypochondriaque qui me poussait à dramatiser tout ce qui me concernait, de voir dans ce fourmillement haleine le prélude à quelques maladies du genre zona, ou pire encore, je me rendais compte en même temps que ce n'était certainement, comme d'habitude, rien.
Vous écoutez écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h20, nous parlons d'inquiétude cette semaine. Et le pire lorsque l'on est inquiet, c'est quand il ne se passe rien. Et c'est le cas au début du livre de Philip Roth, du narrateur, hein, le livre qui s'appelle Le Saint. Ce narrateur qui voit qu'il se passe quelque chose et il se rend bien compte qu'en fait il ne se passe rien. Jusqu'à ce que quelques pages plus loin, on découvre Paul Lévy qu'en fait si il se passe quelque chose, il est en train de se métamorphoser en saint. Quelle idée !
Quelle idée, n'est-ce pas ? Vous avez évoqué la métamorphose de Kafka. C'est une chose horrible de se transformer en cafard. Mais c'est tellement plus réjouissant de se transformer en saint. C'est beaucoup plus érotique. Et on reconnaît encore une fois ici la malice de Philip Roth. Donc, il n'est plus qu'une masse de chair informe, munie d'un téton. Et c'est grâce à ce téton qu'il va continuer à fonctionner, si je puis dire, surtout sexuellement. Et par contre, son psychisme, enfin, son intelligence, sa lucidité est intacte, ce qui rend les choses d'autant plus difficiles. Et en fait, toute l'histoire du saint est celle des efforts cocasses de David Kepesh pour s'accommoder de cette situation qui n'est pas très commode, en fait, qui est assez ingérable. Et dont il se demande si elle n'est pas en fait le fruit de sa seule imagination. Et donc, on est face en fait à une espèce de version burlesque du Job biblique, vous voyez, où le héros est accablé par des maux incroyables, et on voit les gens se presser autour de lui en lui proposant des explications, explications que lui-même réclame à grands cris, alors même qu'il ne cesse de les récuser. Donc, on est vraiment dans une version parodique du Job biblique. Hein.
Qui parle de la situation la plus invraisemblable qui soit pour en proposer un récit qui tient debout parce qu'il assume ce caractère invraisemblable. Et puis, vous l'avez dit, surtout, il est transformé en saint. Le saint est une zone érogène, surtout féminine, qu'il découvre à ce moment-là, ce qui est le lieu pour lui, alors d'une autre source d'inquiétude qui traverse toute l'œuvre de Philip Roth, d'un trouble identitaire absolu. Il se demande s'il est homme ou s'il est femme. Et il découvre une forme de sexualité qu'il ne connaissait pas, ce qui donne lieu à des pages vraiment intéressante.
Ah oui, 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 c'est tout à fait passionnant. Hein. C'est, en fait, il fonctionne avec son téton, comme je l'ai dit. Donc, en fait, bon, je crois qu'il y a plusieurs choses dans Le Saint. Hein. C'est un livre qui a été très diversement accueilli par la critique. Il y a des gens qui n'ont tout simplement pas compris. Il y a d'autres critiques qui ont vu simplement une nouvelle preuve du mauvais goût de l'auteur. Et de sa propension au scabreux et au pornographique. Et puis, il y a ceux qui ont vu une revanche au scandale qu'avait occasionné Portnoy. En fait, comme si Philip Roth se vengeait de tous ceux qui ne voyaient plus en lui, je cite, qu'une bite ambulante. Mm-hmm. Donc,
il est devenu saint.
Donc, il est devenu saint, voilà. Puisqu'il n'a plus le droit d'être, je cite, cette bite ambulante, il deviendra un saint.
Qui ne bouge pas d'ailleurs cette fois-ci.
Non, mais qui est très actif tout de même.
Tout à fait.
Voilà. Je crois que c'est une autre façon de figurer sur un mode ironique cette obsession du féminin hein, qui taraude le personnage rossien. Et aussi, peut-être aussi un certain... certaines interrogations, vous l'avez dit, sur la virilité. Qu'est-ce qu'être un homme hein, dans tous les sens du terme. Et c'est aussi, vous l'avez dit, c'est une réflexion sur le corps. Hein. Je crois que Le Saint s'inscrit, inaugure une longue série de romans qui auront pour thème le corps dans sa, le corps en proie à la maladie ou alors à la déchéance, le corps dans sa précarité, dans sa finitude. Et je crois que c'est Milan Kundera qui a dit. Philip Roth, c'est le poète de cet étrange abandon, de cette étrange situation de l'homme abandonné face à de cette étrange solitude, pardon, de l'homme abandonné face à son propre corps.
Bien entendu, j'en veux toujours plus. Je meurs d'envie d'avoir plus, ou de dépit de ne pas l'avoir, car il n'y a pas d'aboutissement orgasmique à mon excitation, pas d'explosion ni de détente, rien que l'impression prolongée d'une éjaculation imminente qui me fait me convulser de la première à la dernière seconde. Mais pour dire les choses comme elles sont, j'en suis finalement arrivé à me contenter de moins plutôt que de plus. C'est ainsi qu'il décrit la métamorphose de lui-même en saint.
Oui.
C'est d'abord le lieu d'une frustration immense. La sexualité devient frustration. C'est intéressant, absolument. Un homme qui devient une femme ou un sexe masculin qui devient un saint, eh bien, ce qu'il s'imagine en premier, c'est la frustration, parce qu'il n'y a pas d'éjaculation.
Absolument. Et alors même qu'il atteint le paroxysme, il atteint aussi un paroxysme d'angoisse. Et je crois qu'on peut relier ça à ce qui arrive à Portnoy, où finalement, ce qu'on a dans Portnoy, c'est pas du tout une ode à la sexualité libérée, comme on peut avoir chez D.H. Lawrence, ou comme on peut avoir chez Miller. Hein, c'est vraiment... chez Portnoy, la fornication, de même que la masturbation, n'aboutissent qu'à des abîmes de culpabilité. Et abîmes de culpabilité qui sont bien sûr, pour le lecteur, source de comédie.
Oui, et aussi une manière de réfléchir à, non seulement à la différence de la sexualité entre l'homme et la femme, mais au couple, puisque dans le cas du saint, le narrateur est en couple avec une Claire, à qui il va proposer quand même de continuer à une sorte de relation sexuelle alors que lui-même est devenu saint.
Oui, oui, pour lui, ça ne change pas grand-chose. Enfin, c'est ce qu'il espère. Et en fait, le saint nous montre David Kepesh. Le saint est à relier à un roman qui s'appelle Professeur de désir. Professeur de désir décrit son idylle, enfin après moult péripéties, son idylle avec Claire, justement, et s'achève juste avant sa transformation en saint. Donc, mais Professeur de désir est aussi hanté par l'idée de la finitude de toutes les choses humaines, de la précarité, du provisoire. C'est-à-dire qu'alors même que le héros est éperdument amoureux de sa maîtresse, il est hanté par l'idée que ça va finir, que ça doit finir. Alors, peut-être que le saint, c'est une façon d'échapper à cette finitude.
Humain je suis, je le soutiens, mais pas à ce point. Et ce n'est pas non plus que je veuille vivre maintenant parce que j'en suis capable, parce que le pire est passé, je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cas. En dépit de mon équilibre et de l'apparente objectivité qui me permet de narrer l'histoire de mon désastre, je pense parfois que le pire est encore à venir. En fait, voilà, ayant eu une peur bleue de la mort depuis l'âge de 2 ans, je me suis retranché dans ma haine de la mort. J'ai pris position contre la mort, une position que je ne vais pas abandonner pour la simple raison que cela m'est arrivé. Si horrible que cela soit, mon plus ancien et plus impitoyable ennemi, l'extinction, me semble pire encore. En somme, direz-vous, peut-être cela n'est-il pas si horrible après tout. Eh bien, lecteur, dites-le si vous voulez. Tout ce que je sais, c'est que pendant si longtemps, je n'ai pas voulu mourir, que je ne peux cesser comme ça du jour au lendemain. Voici en quelques lignes Paul Lévy, un condensé de l'écriture de Roth qui allie sexualité, finitude, réflexion existentielle et humour en réalité. Dans le cadre de ce petit livre qui fait 125 pages, hein, Le Saint, voilà le genre de réflexion que l'on trouve avant une description d'un acte sexuel entre un saint et une femme et après un récit désopilant du milieu médical qui essaie de s'occuper de lui.
Absolument. Oui, l'humour, oui, comme remède à l'angoisse, mais également, et là, c'est un passage qui ne parle que de la mort, hein, alors même qu'il en parle en termes assez drôles. Mais pour Philip Roth, un des remèdes à cette angoisse de la mort, c'est de libérer l'imagination. Et c'est vraiment de donner libre cours à sa verve carnavalesque, à son imagination débridée, qui va permettre, si j'ose dire, de faire la nique à la mort, de la maintenir à distance. Et aussi de s'imaginer sous d'autres formes du vivant. Et là, on touche à un thème qui est au cœur du saint, c'est celui de la métamorphose, de la capacité de l'être à se métamorphoser, justement dans un espoir toujours renouvelé d'échapper à ses limites.
C'est sans doute le moteur de l'écriture de Philip Roth qui, dans son œuvre, se constitue des doubles. Les narrateurs dans Absolument. Les romans de Philip Roth sont des doubles, mais quasiment explicites de lui-même.
Bien sûr. Des doubles, mais des doubles distanciés. Hein, c'est-à-dire que Philip Roth emprunte abondamment à sa propre biographie et il puise dans sa propre vie une partie de son matériau fictionnel, mais en même temps il s'en distancie et il en propose un portrait très parodique, très burlesque, toujours distordu, parodié, etc. Donc si vous voulez, le double chez Philip Roth, c'est une façon de se montrer, de se mettre en scène, mais en même temps de se dissimuler. Mmh. Et aussi, ça correspond à un désir toujours constant de parler par personnage interposé, si vous voulez. Parce que pour lui, c'est le seul moyen d'approcher une forme de vérité. Et je crois que chez Philip Roth, le masque et la plume sont indissociables.
Quelle serait cette vérité qu'il cherche à approcher ?
La vérité, elle est dans le questionnement. Philip Roth est un auteur qui fait du questionnement son unique vérité et du doute son unique sagesse.
La vérité est du côté de la question.
La vérité n'est que dans la question.
Quelle que soit la question.
Il faut qu'il y ait beaucoup de questions, que le questionnement ne s'arrête jamais et qu'il soit jalonné de contradictions, d'imprécations, de retours en arrière, d'invectives. Il faut que le questionnement ne s'arrête jamais.
Pourtant, il a décidé d'arrêter d'écrire. C'était en 2010. Depuis, en tout cas, il n'a plus écrit. Il a semblé dire, alors pas forcément de manière officielle, mais on a pu lire entre les lignes de certaines interviews qu'il avait données à la presse, qu'il n'écrirait plus. Et qu'il se sentait beaucoup mieux depuis qu'il avait pris la décision de ne plus écrire.
Oui, oui, ça, il le dit dans plusieurs entretiens, qu'il est très très heureux depuis qu'il a pris sa retraite d'écrivain. Mais
comme si l'écriture avait été le signe d'une inquiétude, l'expression d'une inquiétude en soi, et que l'arrêt d'écrire était comme si signifiait peut-être la fin d'une forme d'inquiétude.
Peut-être, il faut l'espérer. Je crois aussi que ça correspond à une très grande lucidité. Philip Roth a peut-être choisi de terminer sur un temps fort, voyez, avec Nemesis, qui est un livre éblouissant, son dernier livre. Vous savez, les écrivains américains ne vieillissent pas toujours très bien, si l'on pense à Faulkner, si l'on pense à Hemingway, dont les romans tardifs ne sont que des pâles répliques, des chefs-d'œuvre qu'ils produisent au début de leur carrière. Peut-être que Philip Roth a dit, a résolu, de terminer sur un temps fort, c'est-à-dire sur un roman dans lequel il était encore en pleine possession de son talent.
Gardons la fin pour la fin, car il y a beaucoup à en dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre Le Saint en 1972 et Némésis en 2010. Notamment, expliquez-nous comment le passage se fait, ou la métamorphose se fait, puisque nous parlons de métamorphose, entre ces textes écrits au nom d'un narrateur à la première personne qui en veut à ses parents ou qui se transforme au Saint, un récit tel que la pastorale américaine, American Pastoral. Cette fois-ci, le narrateur est dans le rôle d'un père qui voit sa fille lui échapper. Alors, lui échapper, c'est le moins qu'on puisse dire. Non seulement toute fille échappe à ses parents à un moment donné, mais elle en plus commet des actes qui sont pour lui absolument impardonnables. Et on est ici dans une réflexion qui est beaucoup plus qui est d'ordre politique, qui est une réflexion sur les États-Unis, d'ordre historique. Le spectre de l'écriture s'agrandit considérablement avec ce roman.
Oui, tout à fait. Au fil de son évolution, Philip Roth s'ouvre à des thèmes nouveaux et notamment à toute une réflexion sur l'Amérique et sur les grands mythes américains qu'il s'emploie à déboulonner, bien sûr. Dans l'un de ses essais, il dit « il faut démythifier, démystifier pour mieux, entre guillemets, dépathologiser », pour se soustraire aux pathologiques. Donc on est avec « American Pastoral », la pastorale américaine, mais d'une façon plus générale, les trois romans qui font la trilogie américaine, on est dans une veine tout à fait différente. Hein, c'est-à-dire qu'il s'agit à présent de réfléchir à l'Amérique, au travers de l'Amérique. Et American Pastoral, c'est aussi le tableau de l'Amérique des années 60, hein, puisque la jeune fille devient terroriste justement parce qu'elle fréquente des groupes très très subversifs qui militent contre la guerre au Vietnam en posant des bombes un peu partout. Alors, pour revenir à cette jeune fille, donc, qui bégaye, oui, il s'agit à nouveau de se soustraire à l'influence des parents. Et aussi, je crois que pastorale américaine, et ça le titre le dit, c'est une certaine idée de l'Amérique comme jardin d'Éden, mmh. comme terre où tout irait bien, si vous voulez, hein, où on a le bon Dieu pour soi. Et le bégaiement de Mary, cette jeune fille, c'est l'ombre au tableau. C'est le serpent dans le paradis, puisque c'est un des premiers signes de ce dérèglement psychique qui l'amènera finalement à devenir terroriste.
J'adore Mary. C'est une enfant merveilleuse.
Merci.
Nous trouvons aussi.
Elle aime bien venir ici, elle nous l'a dit.
Oui, elle aime beaucoup. Quelquefois, quand elle est là, je lui demande, « Mary, quelle chose terrible penses-tu qu'il se produirait si tu arrêtais de bégayer ?» Que penses-tu que ton père et ta mère ressentiraient si tu arrêtais?
Mais enfin, elle ne le peut pas.
Son bégaiement est, je crois, une sorte de stratégie.
Une stratégie? Pourquoi?
Pour éviter la compétition avec une mère si belle, la merveilleuse Miss New Jersey, et gagner sans l'affronter l'attention de son séduisant père.
C'est notre apparence le souci?
Docteur.
Sheila.
Sheila, bégayer, ce n'est pas une chose que Mary a choisie. Ça la fait souffrir.
Elle y trouve peut-être plus de bénéfices que de souffrances.
Mais ça nous tue de la voir comme ça. Ça tue sa mère.
Cela peut être l'un de ses bénéfices. Avez-vous seulement idée de combien cela peut être compliqué pour Mary de grandir auprès d'une maman qui a reçu tant d'attention pour quelque chose d'aussi trivial que la beauté? Il est possible que la raison de son bégaiement soit d'empêcher les gens de lui demander « Est-ce que tu veux devenir Miss New Jersey et être aussi jolie que ta maman ?»
Mais qui lui demande ça? Personne ne lui demande ça.
Je ne suis pas Miss New Jersey pour elle, enfin. Je suis sa mère.
Vous savez, devant l'exigence, la perfection, la pression familiale, une enfant...
Comment ça? Quelle perfection? Quelle pression? Nous sommes une famille normale.
Mais enfin, il y a des raisons physiologiques au bégaiement. J'ai lu un article...
Je vous donnerai tout un tas de causes organiques possibles si c'est ce que vous voulez, mais... Je ne crois pas que ce sera vraiment le plus efficace.
Quand famille, psychanalyse et bégaiement vont de pair, Philip Roth n'est pas très loin, et c'est le cas évidemment dans l'extrait que vous venez d'entendre. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, vous venez d'entendre un extrait d'American Pastoral, l'adaptation du roman de Philip Roth dont nous parlons aujourd'hui, réalisé par Ewan McGregor, c'était en 2016. Vous connaissiez cette adaptation, Paul Lévy?
J'avoue que je n'ai pas vu
ça le film. Ça traduit assez fidèlement l'enjeu, pour le coup. C'est vrai que tout part Absolument. De ce bégaiement qui paraît un détail. Et en fait, à partir de ce bégaiement, on entend une forme de... Enfin, la façon dont ce bégaiement est pris en compte, guéri ou pas, on entend cette l'Amérique qui essaye de se justifier de ses inquiétudes les plus folles, en réalité.
Absolument. Et ce qui caractérise le passage que nous venons d'entendre, c'est ce dialogue de sourds entre les parents et la psychanalyste. Et ce que je trouve assez amusant aussi, c'est cette manie de l'explication. Mmh. C'est-à-dire que la psychanalyste fournit une explication oedipienne. Hein, c'est pour se démarquer de sa mère et séduire son père que Mary est telle qu'elle est. Mais bien sûr, l'explication, parce qu'elle est univoque, est réductrice. Le bégaiement de Mary, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Hein, C'est l'impossibilité de la perfection. Elle est jolie, elle est la petite fille dont ils ont rêvé, et pourtant elle n'est pas parfaite. American Pastoral, c'est le roman de l'impossible perfection, de l'idylle impossible, si vous voulez. L'Amérique n'est pas un paradis.
Donc dans ce personnage de cette Mary bégayante se trouve en fait l'Amérique qui est en proie à ses propres démons, à savoir, puisque le roman a été écrit plus de 20 ans après, la guerre du Vietnam notamment.
Absolument. Oui, c'est cela, mais ça va aussi au-delà de cela, bien sûr. C'est, en fait, le bégaiement de Mary, c'est une forme de violence qui n'arrive pas à sortir. À un moment dans le livre, d'ailleurs, une fois qu'elle a posé sa bombe, une fois qu'elle commence à poser des bombes, elle arrête de bégayer. Comme si, enfin, le fait de poser des bombes lui avait permis de libérer cette violence qui était totalement inarticulée pendant son enfance. Comme si la seule façon de parler était pour elle l'explosion. Voilà.
Ce qui est l'inverse de l'expression non seulement orale mais écrite. Pour un écrivain, imaginer une fille qui bégaye, qui doit poser une bombe pour s'exprimer, c'est vraiment l'antithèse de son propre personnage.
Oui. Mais il faut garder à l'esprit aussi la structure narrative du roman. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement face à l'histoire de Mary et de sa famille, mais c'est Zuckerman,
le personnage... Nathan Zuckerman.
Nathan Zuckerman, donc un des alter-ego fictionnels favoris de Philip Roth, qui raconte cette histoire. Donc on a en fait Zuckerman, non, Ross qui imagine comment Zuckerman imagine que les Levov vont comprendre ou s'efforcent de comprendre l'acte insensé de leur fille. Donc on est vraiment dans une superposition incroyable de strates narratives à travers lesquelles le sens finalement se disperse, se dilue et reste insaisissable.
Mais s'il y a une inquiétude ici, c'est une inquiétude vis-à-vis des États-Unis.
Vis-à-vis des États-Unis.
Et de son passé, c'est une inquiétude tournée vers le passé, ce qui est assez paradoxal.
Le passé et le futur, les deux. Je crois que Philip Roth, dans la trilogie américaine, est presque visionnaire. Hein, et dans La Tâche, par exemple, il anticiperait presque ce qui se passe aujourd'hui en Amérique. Et il ne se prive pas, par exemple, de critiquer Donald Trump dans beaucoup d'entretiens. Donc il y a la critique de l'Amérique, mais il y a aussi, je crois, une tragédie de l'interprétation impossible. On est face à l'inexplicable. Et la tragédie des Levov, la tragédie du père en particulier, c'est qu'il s'est forcé d'être bon, de faire le bien, de faire au mieux, et qu'il a eu faux. Et avoir faux, c'est vraiment un leitmotiv, si vous voulez, dans le roman. Avoir faux, j'ai eu faux, tout le monde a faux. À peine vous ouvrez la bouche, vous avez déjà faux. Et si avoir faux, c'est le propre de l'humain, alors je crois que la fiction, c'est-à-dire l'écart assumé par rapport au réel, devient une des seules possibilités d'approcher le réel.
Dans son incomplétude, c'est ça
Dans son incomplétude, et dans ses aspects les plus récalcitrants, les plus insaisissables.
Et pourtant, il faut une force créatrice et imaginative inouïe pour proposer ce genre de roman, pour décrire l'incomplétude du réel.
Absolument. Et c'est l'imagination est une façon, je l'ai dit, de se soustraire à la finitude, d'essayer de se soustraire à la finitude. Ça ne marche pas jusqu'au bout. Avec Némésis, on est dans toute autre chose.
C'est-à-dire ?
Cela ne marche plus. Là, le tragique est là et il est incontournable. Et on est vraiment dans le tragique, dans une presque...
Quelle est l'histoire de Némésis ? Némésis, c'est le nom de la déesse de la justice.
Bien sûr, et c'est l'histoire d'une épidémie de polio dans les années 40 à Newark. Et c'est les efforts du héros pour, en fait, se soustraire à la mort. Et bien sûr, toutes ces tentatives... de trouver refuge, par exemple, dans un univers pastoral, se solderont par l'échec. Et l'échec est total à la fin du roman. Il n'y a plus de possibilité de fuite, fût-ce à travers l'imagination et à travers l'écriture.
D'un coup, il lança le javelot. On vit saillir chacun de ses muscles lorsqu'il le projeta dans l'air. Il lâcha dans l'effort une sorte de miaulement étranglé, un son qui exprimait l'essence de ce qu'il était, le cri de guerre instinctif de celui qui vise à l'excellence. À la seconde où le javelot s'échappa de sa main et prit son envol, Cantor sautilla sur place pour retrouver son équilibre et ne pas dépasser la limite réglementaire qu'il avait tracée sur le sol avec ses crampons. Pendant tout ce temps, il suivit du regard le javelot dans sa trajectoire, l'arc majestueux qu'il décrivait en l'air, au-dessus du terrain. Aucun d'entre nous n'avait jamais vu une démonstration athlétique exécutée, là, sous nos yeux, avec une telle perfection. Le javelot vola bien au-delà de la ligne des 45 mètres, jusqu'à l'autre côté des 25 mètres de l'adversaire, et quand il descendit et se planta, la pointe trembla et son bout métallique vint se ficher dans le sol à angle aigu par la force de l'élan acquis pendant la course. Paul Lévy, cette image du javelot lancé à la perfection qu'on trouve dans Némésis, le dernier texte donc de Philip Roth, est lourde de sens, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr, et je vous remercie vraiment. C'est comme une transmission de pensée d'avoir choisi ce passage qui est vraiment très, très beau. À nouveau, on est face à une quête de la perfection, cette fois-ci à travers l'exercice du sport. Et on trouve chez Philip Frost cette fascination pour le sport, pour les corps athlétiques. Par exemple, Lvov, nous parlions d'American Pastoral. Le père de Mary est un athlète consommé. Et Cantor est un lanceur de javelot. Donc on a d'une part, si vous voulez, cette aspiration à la perfection dans l'acte physique, dans la performance sportive, et d'autre part, cette image tout de même terrifiante du javelot qui se fiche dans le sol et qui annonce quand même déjà la mort, bien sûr.
La mort, mais après quelle trajectoire ?
Après quelle trajectoire ? Absolument.
Mais vous pensez que Philip Roth parle de lui-même, ici ?
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est beaucoup plus général. Ce serait presque une parabole de la condition humaine.
Le javelot que l'on essaie de lancer le plus loin possible à la perfection.
Oui, je crois. C'est peut-être aussi une métaphore de l'écriture, hein, si l'on y songe. De cet effort pour aller toujours au-delà de soi et toujours au plus haut et toujours au plus beau. Mais il y a une fin, quelle que soit la beauté et la longueur de la trajectoire, de cette trajectoire.
Avec un rapport au corps qui, ici, cette fois-ci, est glorieux. C'est le corps sportif, le corps qui excelle, qui est au service du désir humain.
Le corps glorieux, mais qui va être atteint par la poliomyélite. C'est-à-dire que ce corps glorieux, débordant de santé, va être touché dans sa chair. Et donc, on est à nouveau dans une obsession de la finitude, du provisoire, du précaire, et surtout de l'immense solitude de l'homme par rapport à ce corps qui finira toujours par lui faire défaut.
À propos de ce dernier livre et de sa décision de ne plus écrire, Philip Roth dit ceci, il dit « une forte présomption que j'avais écrit ce que je pouvais faire de mieux. »
Absolument. «
Et que quoi que ce soit d'autre serait inférieur. À l'époque, dit-il, je n'étais plus en possession de la vitalité mentale, ni de l'énergie verbale, ni de la forme physique nécessaire pour monter et soutenir une initiative créatrice vaste, fondée sur une structure complexe aussi exigeante qu'un roman. Chaque talent a ses limites, sa nature, son cadre, sa force. » Ça limite aussi une fonction, l'étendue d'une vie. Personne ne peut être fécond indéfiniment. Comme si l'acte d'arrêter d'écrire était l'ultime sagesse pour lui.
Absolument. Et c'est une forme de lucidité absolument remarquable. Il a le sentiment d'avoir donné le meilleur de lui-même. Et peut-être d'avoir atteint, oui, ses limites. Celles en tout cas que lui impose ce corps qui vieillit, hein, il le dit, je craignais de n'être plus en mesure d'écrire des choses qui soient aussi bien, aussi belles.
Mais il y a une notion de compétition quand même, parce que le lancer de javelot, c'est, il faut aller le
bien
plus
sûr.
Loin possible. Et je prendre la décision d'arrêter d'écrire parce qu'il sait qu'il ne pourra rien écrire de mieux.
C'est une forme d'orgueil, bien sûr. À la fois d'humilité et d'orgueil, hein, tout est à double tranchant chez Philip Roth.
Et cette sagesse qui consiste à arrêter d'écrire, c'est aussi celle qui consiste à relire. Il dit qu'il a lui-même commencé à relire tout ce qu'il avait écrit, puis qu'il s'est arrêté. Il avait commencé par le dernier, puis qu'il n'avait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Il avait trouvé ça pas mal, mais qu'il n'avait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Comme si cette fois-ci, le regard se tournait peut-être vers l'avenir, mais surtout vers le passé. Et que l'inquiétude-là venait aussi de ce qui avait déjà été fait.
Peut-être. Et puis Philip Roth ajoute avec beaucoup d'humour que bon, il commence à relire son œuvre et puis finalement il se dit que ma foi, c'est peut-être tout aussi intéressant de relire les autres grands écrivains, de relire ses maîtres, Kafka, James et tous les auteurs, Kundera et tous les auteurs qu'il affectionne le plus. Donc il relit surtout aussi d'autres auteurs.
Pensez-vous que lire Philip Roth, l'étudier, travailler sur son œuvre, puisque c'est ce que vous faites, Paul Lévy, est une manière d'alimenter l'inquiétude ou au contraire peut-être de l'apaiser ?
Quelle inquiétude ? L'inquiétude de qui ?
Ah ben c'est moi qui vous pose la question, vous répondez comme vous voulez.
Je crois que c'est que l'écriture de Philip Roth est une fabuleuse mise en scène de cette inquiétude qui taraude aussi bien Philip Roth lui-même, écrivain, que ses personnages, que le lecteur qui découvre son œuvre. Et c'est une œuvre qui est extrêmement déstabilisante, extrêmement déroutante. Et c'est pour cela que Philip Roth a fait tellement scandale à ses débuts. Parce que les gens ne s'y retrouvaient pas, dans tous les sens du terme.
On va se quitter avec un dernier son, une chanson qui chante sur l'inquiétude avec humour en anglais. Donc l'inquiétude, dire je suis inquiet, c'est I'm worried, I'm so worried. Écoutez les Monty Python.
I'm so worried about what's happening today in the Middle East, you know. And I'm so worried about the baggage retrieval system they've got at Heathrow. I'm so worried about the fashions today. I don't think they're good for your feet. And I'm so worried about the shows on TV that sometimes they want to repeat. I'm so worried about what's happening today, you know. And I'm worried about the baggage retrieval system they've got at Heathrow. I'm so worried about my hair falling out and the state of the world today. And I'm so worried about being so full of doubt about everything anyway.
Un grand merci à vous, Paul Lévy, d'être venu nous parler de Philip Roth aujourd'hui.
Merci à vous.
Je renvoie les auditeurs à votre livre sur American Pastoral, La vie réinventée, publié aux éditions PUF en 2012, et puis aussi au volume en Pléiade, dans la bibliothèque de la Pléiade, un romans et nouvelles de 59 à 77, à laquelle vous avez participé. Lisez Philip Roth, chers auditeurs, il y a beaucoup de livres dont on n'a pas parlé aujourd'hui. J'ai épousé un communiste, La tâche, Le complot contre l'Amérique, on en trouve énormément, quelles que soient les éditions. Lisez-le, vous serez moins inquiet.
This very next verse, it isn't the best that I've got. And I'm so worried about whether I should go on or whether I shouldn't just stop.
Ne vous inquiétez pas, Géraldine Mosna, sa voix est là, sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. C'est l'heure du journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo, vous revenez aujourd'hui sur une figure en pleine renaissance.
Oui, la figure de la sorcière, longtemps chassée puis oubliée, elle revient depuis quelques années. Où, pourquoi cela vaut-il pour la philosophie? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et déjà, voyons où elle fait son retour. Eh bien, dans des colloques et des revues littéraires, le numéro 5 de Muse Médusa consacrait ainsi tout un dossier aux figures d'un pouvoir clandestin. Dans des films, I Am Not a Witch de la réalisatrice Rungano Nyoni, dans des mouvements militants féministes, les Witch Blocs par exemple, et parfois même dans les deux livres et films engagés comme ceux de l'artiste Camille Ducellier, à qui l'on doit le guide pratique du féminisme divinatoire et Sorcière mes sœurs.
Cher Monsieur l'évêque de Paris, je m'appelle Chloé Delhomme. Je suis un personnage de fiction. Je suis d'une lignée d'Ève ou toujours Aude Lilith. Notre sang est vicié depuis des générations. Elle priait Dieu autant que le diable, les femmes de ma famille. Toutes de mauvaises mères, mauvaises femmes, orgueilleuses, rebouteuses, maniaco-dépressives qui font tourner les guéridons et la mayonnaise quand elles... Est-ce que ça fait de moi une sorcière ?
Alors pourquoi un tel retour de la sorcière ? À quoi doit-on ce retour en grâce de cette figure soit persécutée, soit ignorée, soit complètement lissée ? Je rappelle quand même que la sorcière la plus connue ces dernières années, c'était quand même Samantha de La Sorcière bien aimée. Alors où et pourquoi un tel retour ? Ces deux questions vont de pair. Ce n'est effectivement pas un hasard si les sorcières reviennent aujourd'hui à la faveur de tout un questionnement sur les femmes longtemps restées dans la clandestinité en raison de leur mystère soi-disant originel et naturel. l'artiste Camille Dussulet, dont on a entendu l'extrait de son film « Sorcières, mes sœurs », mais aussi les militantes américaines Barbara Ehrenreich et Deirdre English, à qui l'on doit le best-seller « Sorcières, sages-femmes et infirmières », paru en 1973, mais seulement sorti en France en 2015. Il y a aussi l'historienne Sylvia Federici, auteure de « Caliban et la sorcière », les écrivaines Starwalk et Chloé Delhomme, qu'on a entendu, qu'elle soit aussi écologiste et marxiste, toutes se revendiquent féministes et sorcières, les assumant comme des synonymes d'exclusion, de pouvoir mystique, de savoir magique. Toutes font ainsi le choix de retourner le stigmate et de l'arborer.
Pour un sorcier, 10 000 sorcières. Nature les a fait sorcières. C'est le génie propre à la femme et son tempérament. Elle naît fée. Par le retour régulier de l'exaltation, elle est sibylle. Par l'amour, elle est magicienne. Par sa finesse, sa malice, souvent fantasque et bienfaisante, elle est sorcière et fait le sort, du moins endort, trompe les mots.
Parmi les textes les plus connus sur les sorcières, on ne peut pas passer à côté de celui de Jules Michelet. Il condense ici, dans l'introduction de son livre de 1862, l'idée que l'on s'en fait et le choix aussi féministe de le devenir. Mais voilà, ce choix est-il une manière d'assumer la subversion des sorcières ou de les légitimer et d'en perdre peut-être le côté sulfureux? Comment penser cette articulation actuelle entre légitimation et subversion? Eh bien, c'est une question toute philosophique que l'on peut donc soulever sur les sorcières, et c'est aussi une manière de voir quelle place leur faire en philosophie. Car il faut le dire, celle-ci n'est pas énorme. De sorcières ou sorciers, les philosophes ne parlent pas frontalement. Alors on peut penser à Foucault, qui l'évoque au détour d'une interview en 76 dans les Dits et Écrits, mais il préfère effectivement les sorciers, aux sorciers les posséder. Il y a aussi Jean Bodin, l'inventeur du concept de souveraineté au XVIe siècle, qui était aussi démonologue et qui nous a laissé en 1580 de la démonomanie des sorciers. Et puis en filigrane, par ses descriptions dans le deuxième sexe, Simone de Beauvoir souligne et préfigure l'identité femme sorcière. Mais c'est à peu près tout. Alors quelle place philosophique faire à la sorcellerie et à ses figures?
Mon Dieu, voici Maléfique!
Que vient-elle faire ici?
Mais il y a là tout le beau monde, roi Stéphane. Leurs altesses, la noblesse, l'aristocratie et... il y a aussi la racaille. Je me sens vexée, sachez-le, de ne pas avoir eu d'invitation.
Votre présence n'était pas désirée.
Vraiment? Ah! Oh, et vous osez l'avouer sans honte? J'avais espéré que ce n'était là qu'un fâcheux oubli.
De la même manière que la maléfique de la Belle au bois dormant a été exclue, on peut dire que la sorcellerie l'a été de la philosophie, trop magique, trop mystique. Elle oppose un défi à la raison et aux normes, elle incarne la question de l'altérité et de son intégration, mais c'est pourtant par là qu'elle pourrait aussi exciter les philosophes. Notons-le, Bergson a ainsi réhabilité le mystique dans ses deux sources de la morale et de la religion, et puis récemment Magic de Laurent de Sutter qui est paru au PUF en 2015, et puis aussi la philosophie de la magie de Rémi David aux éditions Autrement en 2017, ou encore l'édition 2016 de la semaine de la pop philo, témoignait de cette fascination de la pensée pour la magie. Alors pourquoi pas les sorcières? Résistance, savoir, solidarité, pouvoir du corps, elles ont tant de choses à dire aux philosophes.
Si vous le dites Géraldine, alors appelons-en à une philosophie de la sorcellerie, puisqu'on a entendu une chanson des Monty Python et ça fait penser à un sketch très drôle sur les sorcières, peut-être qu'on le mettra en ligne sur votre journal de la philo.
Pourquoi pas, ce serait drôle. Et puis pour prolonger, il y a la série documentaire de Perrine Cavran diffusée sur France Culture il y a quelques semaines par Céline Duchesnay et Laurent Polrecki, abordée cette question des sorcières. Puis je cite les éditions Cambourakis, où l'on trouve la nouvelle édition du guide pratique du féminisme divinatoire de Camille Dussulet, puis les textes de Starwalk, de Barbara Ehrenreich et Deirdre English.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Isis Jourda, Maud Markiewicz, Géraldine Mosna-Savoie, Nicole Garcia à la lecture des textes cette semaine, Olivier Bétard à la réalisation, Alexandre Dang à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur l'inquiétude. Demain, nous parlerons de la vie inquiète de Thomas Hobbes. Ce sera en compagnie de Luc Foineau. D'ici là, pour écouter cette émission sur Philip Roth, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.